Vous êtes sur RTL.
Par Olivier Bost. Le Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Rassemblement National et député du Nord. Les agriculteurs en colère sont-ils vos nouveaux amis? Des syndicats agricoles veulent bloquer Paris. Jusqu'où les accompagnerez-vous? Nous parlerons aussi de Gabriel Attal. Comment trouvez-vous les premiers pas de ces premiers pas de Premier ministre? Et puis dans l'actualité également, la loi immigration. Vous l'aviez votée, mais elle a été largement retoquée cette semaine. Le gouvernement vous a-t-il joué un mauvais tour? Bienvenue dans ce Grand Jury, Sébastien Chenu. À mes côtés, cette semaine, Pauline Buisson de la rédaction de M6.
Bonjour.
Et Jim Jarassé du
Bonjour.
Figaro.
Bonjour, monsieur.
Le Premier ministre Gabriel Attal est donc encore sur le terrain aujourd'hui dans une exploitation agricole. Il y a deux jours, il a répondu aux inquiétudes par une série d'annonces. Question de Jim Jarassé.
Oui, un premier train d'annonces vendredi, des mesures supplémentaires encore promises ce matin. Diriez-vous, Sébastien Chenu, que le Premier ministre a réussi son premier baptême du feu avec les agriculteurs? Est-il en train d'éteindre la colère du monde agricole?
Avant de vous répondre, et je vais vous répondre très précisément, mais moi je ne peux pas commencer cette séquence sur l'agriculture sans avoir une pensée pour Alexandra et sa fille Camille, qui ont été tués par des gens d'ailleurs sous OQTF dans un barrage de l'Ariège. Je veux avoir une pensée pour Jean-Michel aussi, l'époux d'Alexandra, désormais veuf, qui dit beaucoup...
Hommage.
Oui, mais je pense qu'il faut commencer par là, parce que ça dit beaucoup de la situation de nos agriculteurs. Elles n'avaient évidemment rien à faire sur un bout d'autoroute, autrement que pour essayer de préserver sa situation,
son revenu. À partir de ce mouvement, ce sont des...
Ah, mais ils sont très symboliques de ce que vivent nos agriculteurs, très symboliques de ce qu'on veut faire vivre à nos agriculteurs, c'est-à-dire les effacer. Effacer derrière eux d'ailleurs la ruralité, effacer les gêneurs, effacer les pollueurs, effacer ceux qui font du bruit, effacer ceux qui embêtent une certaine société. Je pense à Vincent Verchure, par exemple, cet agriculteur de Saint-Aubin-en-Bray dans l'Oise, condamné à 100 000 euros dernièrement parce qu'il produisait quelques nuisances liées à son activité agricole. Ça en dit long quand même du sort que subissent nos agriculteurs.
Peut, pour en revenir au Premier ministre, effacer les agriculteurs?
Oui, bien sûr. Bien sûr que la philosophie qu'il soutient, la philosophie d'Emmanuel Macron, celle de Gabriel Attal, je vais revenir précisément à votre question si vous le voulez bien, c'est une philosophie qui amène à effacer notre ruralité, comme ils ont d'ailleurs effacé les petits commerçants, les petits artisans, les indépendants du commerce au profit des gros, comme ils effacent l'industrie française.
Ça veut dire vouloir leur disparition, ça veut dire quoi?
Oui, parce que ça ne correspond pas à leur modèle. Leur modèle de société ne se satisfait pas de gens qui sont indépendants, enracinés et qui représentent finalement une part de notre histoire économique et sociale.
Donc, toutes les annonces de Gabriel Attal pour vous, vendredi soir, par exemple, ce n'est rien?
Alors, je pense que Gabriel Attal a répondu à 1% du problème, puisqu'il a fait lever un barrage sur 100. Donc, il a répondu à 1% du problème.
C'est tout à fait vrai.
La réalité est que Gabriel Attal, non seulement n'est pas à la hauteur sur la réponse, mais parce que derrière, ces réponses sont sous-tendues par une philosophie politique, par des actes politiques aussi qu'on a pu mesurer ces dernières années, qui sont en parfaite contradiction avec les demandes des agriculteurs. La stratégie du ballot de paille, là, à laquelle a essayé de nous faire croire Gabriel Attal, j'arrive. Il manquait plus que les bottes.
Et puis,
voilà. Enfin, sincèrement, elle trouve ses limites. Vous ne pouvez pas faire croire à des gens que vous les soutenez lorsque pendant des années, vous avez soutenu des dispositions et des politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts.
Il y a aussi des annonces concrètes de Gabriel Attal, par exemple sur les taxes sur le gazole non routier. Le Premier ministre a promis la suppression de la hausse de cette taxe. C'était une des grosses revendications des agriculteurs. Et d'ailleurs, l'un des leaders de la Fronde en Haute-Garonne, Jérôme Bayle, a levé son barrage sur la 64. C'est bien que ces mesures ont quand même un certain écho auprès des agriculteurs.
Non, mais je suis désolé de vous le dire, c'est un statu quo, c'est pas une victoire. La vie des agriculteurs, la vie économique des agriculteurs ne va pas être meilleure parce que la taxe qui existe aujourd'hui, dont ils bénéficiaient sur ce GNR quelque part d'une taxe amoindrie, eh bien parce que cette taxe va rester au niveau où elle était. Ils ne gagnent rien de plus, simplement ils ne perdent pas davantage. Quelle victoire! Ils ne perdent pas davantage. Alors bien sûr, nous, on avait demandé que cet axe sur le GNR ne puisse pas être alourdi. C'est d'ailleurs Jean-Philippe Tanguy qui m'accompagne aujourd'hui, qui est là dans la salle, qui est député de la Somme, qui connaît bien ces problématiques, qui avait à la tête de notre groupe avec Marine Le Pen demandé lors du budget que cet axe ne soit pas alourdi. Mais si vous voulez, ce n'est pas une victoire, c'est simplement quelque chose de négatif en moins. C'est-à-dire qu'au milieu de la marée, au milieu du flot de difficultés des agriculteurs, on ne va pas en plus surcharger ça par cette taxe du GNR.
Donc vous suivez les agriculteurs qui vont continuer leur mouvement, la FNSEA, les jeunes agriculteurs qui appellent demain à un blocus de Paris, vous les soutenez, vous les soutiendrez jusqu'au bout?
Mais moi je soutiens les agriculteurs à 100%. Avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, les députés du Rassemblement National, nous soutenons la ruralité et nous soutenons au-delà même de la ruralité la France qui travaille, parce que ce que disent les agriculteurs, nous voulons vivre de notre travail. Ce ne sont pas des gens qui bloquent pour le plaisir de bloquer, ce sont des gens qui aujourd'hui font une sorte de grève pour pouvoir vivre de leur travail, pas pour avoir des subventions, pas pour pouvoir bénéficier de quelconques avantages, vivre de leur travail.
Donc bloquer Paris, c'est une action que vous soutenez?
Que les agriculteurs choisissent leur mode d'action pour se faire entendre, moi je les laisse juger, je les laisse arbitrer dans ce qui leur semble le plus pertinent pour se faire entendre.
Est-ce que pour vous, il y a des actions qui ne sont pas possibles? Est-ce que bloquer Paris...
La violence n'est pas possible.
Ouais.
Au-delà de ça, les agriculteurs sont des gens responsables. Ils savent que les Français les regardent. Et moi, je sais qu'ils se tiendront bien. Je n'ai aucun doute là-dessus.
Vous parlez de soutenir les gens qui travaillent. Si demain, les routes autour de Paris sont bloquées et d'autres routes en province, c'est aussi pour les gens qui travaillent.
C'est pour ça que le gouvernement va devoir bouger et rapidement. Il y a un Conseil européen jeudi prochain. Il va falloir des annonces, il va falloir nous montrer qu'il change de cap. Mais je vais y revenir parce que je crois que ce gouvernement ne le fera pas. Mais dites donc, c'est pas arrivé, nous sommes dimanche, c'est pas arrivé vendredi, toutes ces histoires. Au mois de novembre, les agriculteurs ont commencé à retourner les panneaux d'entrée de nos communes rurales partout en France pour signifier une chose: on marche sur la tête. Qu'est-ce qu'ils voulaient signifier? D'abord qu'ils étaient gavés, asphyxiés de normes, de zonages. On flique les agriculteurs du soir au matin. On leur impose de la norme, de la surnorme. On zone. Alors il y a tous les zonages possibles et imaginables. Les zonages sur les zones humides. Puis après vous avez un surzonage pour la protection des oiseaux. Puis un autre sur les phytos,
donc,
etc.
Vous dites que le gouvernement n'a pas vu le problème venir, c'est ça? N'a pas vu le problème monter?
Mais non seulement il ne l'a pas vu, mais il a tourné le regard, il a tourné la tête, parce que ici, Gabriel Attal caresse les agriculteurs dans le sens du poil, si j'ose dire, et là-bas, à Bruxelles, il les flingue et il les flique, parce qu'on fait fliquer nos agriculteurs par des drones, on fait fliquer nos agriculteurs par tout un tas de dispositifs dont derrière la conséquence est de leur supprimer des pans entiers de la PAC s'ils ne répondent pas à la marche forcée de l'Union européenne.
On reviendra sur la politique européenne, mais auparavant, l'incendie d'un bâtiment de la Mutualité sociale agricole à Narbonne, le plasticage d'un bâtiment de la Direction de l'Environnement à Carcassonne, est-ce que ça c'est des actions que vous comprenez ou pas?
Non, les actions de violence, je ne les comprends pas. Je vous ai dit d'ailleurs que la limite dans mon propos était évidemment toute action qui était liée à la violence. Je crois, extrêmement marginal. Les agriculteurs sont des gens responsables, mais ils le savent. Vous savez, ce sont des gens qui montent des barrages ou qui vont peut-être demain bloquer Paris, mais qui continuent d'essayer de faire tourner leurs exploitations
donc
en parallèle.
Donc vous comprenez les messages de modération de Gérald Darmanin qui dit on n'envoie pas de CRS?
Non, mais bien sûr, moi je fais confiance au monde de la ruralité. Mais je ne fais pas confiance à ce gouvernement parce qu'il nous a démontré qu'il avait travaillé, non pas dans l'intérêt de cette ruralité, mais il avait travaillé à effacer notre ruralité.
Certains à gauche dénoncent un deux poids deux mesures sur justement ces modes d'action en comparaison avec la réponse policière qu'on a pu voir face aux mouvements sociaux ou écologistes. Est-ce qu'il y a une complaisance vis-à-vis des agriculteurs?
Non, il y a une confiance en eux. Nous avons confiance dans nos agriculteurs. 89% des Français soutiennent les manifestations des agriculteurs. Nous avons confiance en eux. Nous savons que ce sont des gens responsables. Et puis, ils ont un avantage, les agriculteurs, c'est qu'ils sont très directs. Avec eux, on sait exactement ce qui va et ce qui ne va pas. Ils vous disent, on est gavé de normes. Ils vous expliquent lesquelles. Je ne reviendrai pas sur les haies, je ne reviendrai pas sur les dingueries, les arrêtés anti-sécheresse. Je pense au département des Yvelines, qui a eu 2 mois d'eau et qui a maintenu un arrêté anti-sécheresse qui empêchait les maraîchers sous serre de pouvoir utiliser l'eau. Enfin, est-ce qu'à un moment, dans ce pays, on se réveille? Est-ce qu'à un moment, on arrête cette suradministration
ou ce zèle? Vous pointez le gouvernement, mais est-ce que vous diriez que les écologistes sont responsables de la situation des agriculteurs? Gabriel Attal les a cité vendredi, par exemple.
Oui, non, mais alors les écologistes, c'est encore autre chose. Eux détestent la réalité, c'est détestent notre agriculture. Ils poussent évidemment au bio, par exemple. Ils poussent à une viande qui ne soit plus la viande animale, mais une viande végétale. Ils poussent en fait à faire en sorte que l'agriculture ne nourrisse plus les Français. Ils ont idéologiquement un problème avec l'agriculture.
Donc il faut réduire les objectifs environnementaux.
En tous les cas, les objectifs imposés aujourd'hui sont intenables. Il y a des pays qui, aujourd'hui, s'affranchissent de ces obligations. La Suède, par exemple, s'affranchit des obligations que l'Union européenne essaie de nous imposer. Des obligations en termes de terrain à cultiver, les zones agricoles disponibles vont être de plus en plus réduites, les obligations de jachère, là encore, de l'Union européenne. Oui, ces objectifs qui sont un peu l'obsession de Mme von der Leyen et l'obsession des macronistes au Parlement européen. Parce que je le redis, hein, ici, Gabriel Attal monte sur un ballot de paille ou raconte n'importe quoi aux agriculteurs pour essayer de calmer. Mais à Bruxelles, ses amis qu'on retrouve au gouvernement avec M. Séjourné ont voté toutes les dispositions qui ruinent notre agriculture. Pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Tous les accords de libre-échange, ils les ont tous votés. Nous nous y sommes tous opposés.
L'histoire de la taxe sur le gasoil qui concernait les agriculteurs, c'est pour réduire globalement les émissions de CO2. Est-ce que sur ces objectifs de réduction des émissions de CO2, c'est ce qu'on avait vécu aussi avec les gilets jaunes, est-ce qu'il faut revoir ces objectifs ?
Bien sûr. Le pacte vert, le fameux pacte vert, qui veut réduire de 90% les objectifs, les émissions de CO2 pour dans les 15 prochaines années, est un pacte intenable, qui coûte un fric fou. 620 milliards d'euros doivent être budgétés pour réduire les émissions de CO2. Mais la France n'est pas évidemment un mauvais élève. Je vous rappelle que la France est 1% des émissions de CO2. Donc il n'y a pas non plus raison de culpabiliser. Nous ne pouvons pas aller à marche forcée, parce que demain, ce qui va se passer, c'est que l'Union européenne sera peut-être la championne de la norme anti-CO2, mais nous n'aurons plus d'agriculture, tout comme nous n'aurons plus d'ailleurs de voitures à batterie. Nous serons les mauvais élèves.
Pour être clair, ce que vous dites, c'est qu'il faut abandonner ces objectifs de réduction.
En tous les cas, ceux-là, oui. Ceux que Mme von der Leyen porte avec le soutien d'Emmanuel Macron doivent être abandonnés. Ils ne sont pas acceptables en termes de temps. Le calendrier n'est pas le bon. Les objectifs sont trop ambitieux par rapport à la situation de nos agriculteurs qui eux-mêmes ont conscience de devoir préserver l'environnement. Ils sont tout à fait responsables là-dedans.
Est-ce que dans le programme du Rassemblement National, par exemple pour 2027, il y aura un objectif de réduction des émissions de CO2? Est-ce qu'il y aura pour le climat quelque chose ou pas?
Bien sûr, et vous savez que par exemple, nous on travaille beaucoup sur le développement par exemple de l'hydrogène, ça en fait partie. Donc bien entendu, conscience.
Ça peine à démarrer, là aussi c'est beaucoup de milliards et centaines de milliards d'euros.
Ça peine à démarrer ici, hein. Regardez ce que la Chine budgète sur l'hydrogène, vous allez voir que ça peine pas à démarrer ailleurs. Alors peut-être que dans quelques temps...
Centaines de milliards d'euros dépensés, pour le coup...
Peut-être que dans quelques temps, on se réveillera et on dira « Ah, mais si on avait su, il fallait mettre de l'argent dans l'hydrogène. » Nous, c'est ce qu'on propose. Pas seulement, je parlais tout à l'heure des accords de libre-échange, il faut sortir l'agriculture de ces accords de libre-échange. C'est-à-dire qu'on continue à commercer avec le monde entier, évidemment.
Et quand vous sortez des accords de libre-échange, vous arrêtez le commerce, hein ?
Pas du tout. Non, mais pas du tout. Vous avez des accords de libre-échange.
Les accords de libre-échange, c'est pour faire des échanges.
C'est bien ce que je vous explique, repose sur différentes choses, qui repose sur les services, qui repose sur de l'industrie, qui repose sur du luxe, qui repose sur différents... Eh bien, sortons l'agriculture comme on a sorti d'ailleurs les biens culturels, comme on a sorti la culture, préserver la nôtre.
Mais vous savez très bien que si vous fermez, par exemple, sur l'agriculture, la réponse des autres pays concernés, ça va être de dire, votre luxe, on va le taxer, arrivé. Il y a déjà eu des taxes sur un certain nombre de produits.
Des accords de libre-échange.
Le résultat de ce type de négociation.
Les accords de libre-échange doivent être équilibrés. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui.
Mais vous voulez qu'ils s'équilibrent sans l'agriculture.
Absolument. Nous considérons que c'est possible. Nous considérons qu'il y aura toujours une demande. Alors, on garde le vin dedans, parce que le vin, nous on exporte énormément notre vin. On n'a même pas assez, de nos capacités de production en vin pour pouvoir répondre à la demande mondiale. Donc, on a la possibilité de continuer des accords de libre-échange sans problème, mais pas avec l'agriculture, en tous les cas pas ceux que nous connaissons, c'est-à-dire pas notamment le fait d'ouvrir via l'Ukraine notre marché à une volaille ukrainienne qui va venir faire monter...
Spécifique, puisque c'est un soutien à la guerre en Ukraine, on a ouvert nos frontières, mais c'est pas un accord de libre-échange pour le coup.
D'accord, c'est un accord de libre-échange qui ne dit pas son nom, puisqu'en fait on soutient l'Ukraine au détriment de nos intérêts. Très intéressant comme politique. Donc en fait, on va soutenir les pays du monde entier. Demain, on soutiendra le Bangladesh au détriment des Français. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Désolé, nous, on est là pour défendre les Français et ceux qui produisent en France.
Donc il faut arrêter de soutenir l'Ukraine ?
En tous les cas, pas comme ça. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter de soutenir l'Ukraine. On a souhaité qu'on puisse, et on a voté d'ailleurs, des aides de soutien à l'Ukraine, mais pas au détriment des intérêts des Français. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a un seul Français dans ce pays à qui on dira on soutient l'Ukraine au détriment de l'agriculture française, est-ce que vous êtes d'accord? Mais les Français ne sont pas d'accord avec ça. Évidemment, le problème, c'est qu'on ne demande pas leur avis aux Français et qu'on continue à les négocier à Bruxelles sur ce terrain-là, sans écouter, sans entendre la volonté des Français.
Sur le terrain de l'agriculture, qui est l'une de leurs forces, et effectivement une force exportatrice, il faudra les aider autrement. Donc dépenser plus, notamment par exemple en aide directe d'armement et ce genre de choses.
Moi, je ne suis pas favorable à ce que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. L'idée de résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine est une nécessité diplomatique. Il faut mettre les gens autour de la table, nous l'avons déjà dit.
Non, mais l'enjeu, c'est que l'Ukraine ne perde pas la guerre.
Mais l'enjeu, c'est que l'Ukraine ne perde pas la guerre. L'enjeu, c'est d'arrêter ce conflit. Mais l'enjeu, c'est pas de déshabiller la France. Or, si à la fin, l'Ukraine a gagné la guerre et que la France n'a plus d'agriculteurs, ça nous fera une belle jambe.
Jim Jarassé, pardon.
Est-ce que vous croyez à l'engagement de Gabriel Attal et Emmanuel Macron de ne pas adopter le traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, le Mercosur? Gabriel Attal l'a rappelé à nouveau. Est-ce que vous croyez à cet engagement?
Pas vraiment.
C'est en négociation actuellement avec l'Union européenne.
Pas vraiment, parce que je me souviens qu'en 2017, le ministre de l'Agriculture macroniste Stéphane Travers s'était opposé au Mercosur. Et puis ensuite, Emmanuel Macron lui-même a réouvert la possibilité de négocier. C'est-à-dire que finalement, il a dit attention, ne refusons pas trop vite, regardons. Et maintenant, ils se rétractent. En fait, ils ne savent pas tellement où ils vont. Ils ont très envie de ces accords de libre-échange, c'est dans leur logique mondialiste, mais ils comprennent bien aujourd'hui que les Français, ils sont hostiles. Mais regardez ce qu'ils ont fait avec le Chili. En commission cette semaine, au moment où les agriculteurs sont sur des barrages, ils négocient un accord de libre-échange avec le Chili. Le Chili, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va négocier avec le Chili? On va négocier des services, on va négocier des métaux, notamment je pense au cuivre, contre de l'agriculture française. Eh bien, ça veut dire que leurs logiques sont sans fin. C'est une histoire de choix politique. Nous, on considère que l'Europe doit nourrir les Européens, que les agriculteurs doivent vivre de leurs revenus et qu'une société sans agriculture, une société qui ne soit que le mondialisme, que la transformation, que les échanges mondialisés déséquilibrés, eh bien c'est une société qui marche sur la tête. Donc non, je ne leur fais pas confiance.
Alors, pour revenir sur le terrain et en France, Gabriel Attal était ce matin dans une exploitation en Indre-et-Loire, Marine Le Pen est également sur le terrain à l'heure où on se parle dans le Nord. Est-ce qu'il y a un match au chevet des agriculteurs qui se poursuit?
En tous les cas, les agriculteurs sauront, je crois, choisir qui est le plus crédible sur la longueur. Moi, quand j'entends le Premier ministre, je me demande, répéter ce que disent les agriculteurs, je me demande si on n'est pas dans un hôpital psychiatrique. Enfin, je veux dire, le Premier ministre dit tout et son inverse dans la même journée. Le Premier ministre dit tout et l'inverse de la politique qu'ils ont menée dans la même journée. Je veux dire, faisons confiance à des gens qui ont de la cohérence. La vision que nous portons, elle est différente de celle d'Emmanuel Macron. C'est pas un procès aux macronistes que le dire. On ne voit pas les choses de la même façon. Mais je pense qu'effectivement, nous avons plus de crédibilité parce que ce que nous avons dit sur le GNR, ce que nous avons dit sur la loi Egalim, ce que nous avons dit sur les accords de libre-échange produisent les effets que nous constatons. Donc je pense que oui, nous avons plus de crédibilité.
Selon le Premier ministre, vous butinez de colère en colère, c'est ce qu'il a dit cette semaine. Comment vous réagissez?
Oui, mais ça, c'est facile. Vous savez, c'est ces arguments de gens qui ne refusent d'assumer leurs responsabilités. Dans la vie politique, il faut savoir assumer ses responsabilités. On pourra en reparler, d'ailleurs. Il faut savoir assumer ses responsabilités. Ce gouvernement n'assume pas le fait... D'ailleurs, leur missi dominici à l'Union européenne, M. Canfin, c'est lui qui oblige les conversions agricoles dans le bio. C'est lui qui oblige cette marche forcée dans le développement durable sur le dos des agriculteurs. Donc, ce gouvernement, non seulement est schizophrène, mais non seulement, et c'est le pire, n'assume pas ses responsabilités. C'est comme, vous savez, Bruno Le Maire qui nous disait tous les mois, on est au pic de l'inflation. C'est jamais de leur faute dans rien. C'est comme Gérald Darmanin. C'est jamais de leur faute sur la sécurité. En fait, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Et en fait, leur idéologie politique bien avant, depuis de longues années, et ils n'assument pas les conséquences de leur choix politique.
On peut quand même... La question de l'agriculture n'était pas une question sur laquelle vous étiez extrêmement présent jusque-là. Marc Fesneau, invité du Grand Jury la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture, s'est déclaré content que Jordan Bardella découvre ce que c'est que des bottes. C'est vrai que Jordan Bardella s'est pas beaucoup jusque-là impliqué sur ces questions-là.
Mais c'est quoi ce mépris, en fait? ce mépris. Regardez les scores que nous faisons dans la ruralité. Regardez simplement là où les Français votent pour nous. Et regardez d'où viennent nos députés.
Les agriculteurs n'étaient pas les premiers électeurs du Rassemblement
d'accord,
national.
D'accord, mais enfin, ils le deviennent visiblement.
En 2022...
On n'a pas d'élection encore pour le vérifier. Mais
en 2022, un tiers des agriculteurs ont voté pour Emmanuel Macron. C'est supérieur à son score national. Et vous avez
et combien du retard. Pour nous et combien pour nous et un tiers aussi.
Un peu moins.
Bon. Regardez d'où viennent nos députés. Grégoire de Fournasse, viticulteur, ou Christophe Barthès, viticulteur, en Gironde et dans l'Aude, Roger Chudeau dans le Loir-et-Cher, les députés de Picardie, Guignot dans l'Oise et autres, ils viennent tous de territoires agricoles. Bien entendu qu'ils savent ce dont ils parlent.
Donc il n'y a pas d'opportunisme de la part du Rassemblement national.
Non, mais vous savez, il faut simplement suivre ce que disent les gens sur la longueur. Nous, on développe un discours. Les Français y adhèrent ou n'y adhèrent pas. On a le droit de le critiquer. On a le droit de nous combattre. Mais nous développons des analyses qui se fondent sur l'observation de ce monde, de ce que font les uns et les autres, et nous proposons des solutions. Il se trouve que tout ce que nous avons dit, et Marine Le Pen le disait déjà lorsqu'elle combattait le traité sur le CETA, il y a déjà plusieurs années, eh bien tout ce que nous avons dit sur les déséquilibres de ces accords de libre-échange, sur le fait que Bruxelles ne soit pas au service des populations européennes pour leur permettre d'être nourries par leur propre agriculture, eh bien, amène les résultats que nous connaissons aujourd'hui. On n'est pas extra-lucide. On ne s'est pas levé un matin en disant « il va se passer ça ». Ce sont les conséquences logiques des politiques qui sont menées.
Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un changement de stratégie ? On sait que pendant la crise des Gilets jaunes, vous aviez pris un peu plus de distance. Là, vous semblez plus actif, plus au contact des agriculteurs. Est-ce que c'est une stratégie qui change ?
Mais ce n'est pas une stratégie qui change. C'est que nous faisons une proposition politique aux Français qui repose sur une vision globale des choses. Notre offre politique, elle se décline sur l'industrie, elle se décline avec le patriotisme économique, elle se décline sur l'agriculture, elle se décline sur la santé, et elle a une cohérence d'ensemble. Chez Emmanuel Macron, il y a une cohérence d'ensemble. Moi, je reconnais que dans les politiques libérales, mondialistes, il y a une cohérence. Mais cette politique-là, celle d'Emmanuel Macron, elle n'est pas au service des peuples, elle n'est pas au service du travail. Donc oui, nous considérons que notre offre politique correspond à la France, aux besoins de la France, à nos capacités de production, aux nécessaires productions à venir dont on a besoin pour nourrir les Français, et puis évidemment à notre histoire aussi.
Juste pour une petite parenthèse sur le monde syndical agricole, est-ce que la coordination rurale et les jeunes agriculteurs sont deux syndicats qui sont vos alliés ou en tout cas des interlocuteurs privilégiés ?
Non, ce sont des gens qui sont particulièrement indépendants. Je note que la FNSEA avait appelé, enfin les dirigeants de la FNSEA avaient appelé, les mêmes qui ont négocié d'ailleurs le GNR, avaient appelé à faire battre Marine Le Pen aux élections présidentielles. Ils ont le droit. Je crois qu'ils se sont évidemment trompés et qu'on a peut-être, avec la coordination rurale ou les jeunes agriculteurs, des gens qui cherchent moins à s'immiscer dans un jeu politique, mais plutôt à faire ce qui est leur boulot, défendre les intérêts qu'ils représentent. Donc, ce sont en réalité probablement des gens qui ont vraiment les pieds sur terre. Moi, je crois que j'ai beaucoup discuté avec les jeunes agriculteurs, avec la coordination rurale, puis avec tous ces agriculteurs non syndiqués, car je pense qu'ils sont aujourd'hui majoritaires, ils ont les pieds sur terre et on a une capacité de dialogue qui est totalement authentique.
On va parler maintenant du revenu des agriculteurs. Jim Jarassé.
Oui, comment régler ce paradoxe, Sébastien Chenu ? Les Français veulent payer évidemment leur nourriture le moins cher possible, notamment les classes populaires, et les agriculteurs veulent tirer le revenu maximum de ce qu'ils vendent. Comment vous réglez ce problème qui touche finalement votre électorat, à la fois les classes populaires et les agriculteurs ?
D'accord. Quelle est l'inflation de l'alimentaire ces dernières années ? Quel a été le niveau d'inflation de l'alimentaire ces dernières années ?
Une trentaine de pourcents. Sur les deux dernières années, une trentaine de pourcents.
Ouais. Voilà. Donc, on n'a jamais eu autant d'inflation que ces dernières années. Les agriculteurs vivent-ils mieux alors que l'alimentaire se vend plus cher ? Non. D'ailleurs, le monde agricole est en crise. Donc, on voit bien qu'il y a une distorsion à nous dire « Ah oui, mais si vous voulez une agriculture qui tienne le choc, il va falloir payer plus cher votre alimentation. » La réalité, c'est que l'alimentation est très chère aujourd'hui et que l'agriculture se casse la figure. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens, entre-temps, les industries, les intermédiaires, la grande distribution, qui ont des marges extrêmement importantes sur lesquelles il va falloir revenir. D'abord, rendre ces marges transparente. Moi, c'est une demande que j'ai eue jeudi lorsque j'étais sur un barrage à côté de Valenciennes, des agriculteurs qui m'ont dit « il faut la transparence des marges ». Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que la loi Egalim, qui permet effectivement
revenus décents
pour les agriculteurs, soit appliquée. On nous dit « Bruno Le Maire va missionner 100 inspecteurs ».
Pour renforcer les contrôles.
À l'Office de la biodiversité, cet organisme qui se charge d'ennuyer, pour rester correct, les agriculteurs, il y a 3000 contrôleurs qui, matin, midi et soir, regardent si l'agriculteur a fait son épandage exactement au millimètre près.
S'il n'a pas
au mètre près. Si le zonage a été respecté, etc. Donc, si vous voulez.
Il y a un travail de terrain dans un cas et dans l'autre.
Oui, c'est vrai qu'il y a un travail de terrain dans un cas et de l'autre côté, il y a ceux qui inspectent le travail de terrain et qui viennent produire de la norme et pour ennuyer les gens qui produisent.
Vous comparez des choses qui ne sont pas comparables.
Non, je peux vous assurer que sur le terrain, les gens, ils comprennent bien ce dont il s'agit. Donc, au-delà de ça, c'est bien qu'il y a des gens qui, avec les marges, des gens, des structures, je vous l'ai indiqué, des centrales
d'achat. La grande distribution, les centrales d'achat.
Ben, il va falloir aussi un moment qu'ils contribuent peut-être davantage au-delà même de la transparence de leurs marges et l'explication de leurs marges. Qu'ils expliquent comment ils arrivent à des marges pareilles alors que les agriculteurs sont eux, mal payés, et bien qu'ils contribuent peut-être davantage.
Vous aviez rencontré Michel-Édouard Leclerc l'an dernier. Vos discussions portaient sur quoi? Justement sur ça?
Mais déjà à l'époque, et je continuerai d'ailleurs à rencontrer moi les gens de la grande distribution, parce que ce sont des interlocuteurs. Ils font partie de la chaîne. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Et puis, parfois, ils sont capables de nous dire qu'ils ont des produits maison dont ils baissent le coût. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire des choses. Oui, bien sûr qu'il faut les mettre autour de la table. Ils font partie des interlocuteurs, mais il faut qu'ils le fassent dans la transparence. Ce que les agriculteurs demandent, c'est que leur marge soit contrôlée, qu'elle soit transparente et qu'éventuellement, effectivement, ils soient sanctionnés.
Vous dites qu'il faut des amendes plus fortes pour les distributeurs qui ne jouent pas
le jeu. Oui, aussi, bien sûr.
Jordan Bardella défend l'idée d'un patriotisme alimentaire. Ça passerait notamment, par exemple, par des obligations d'achat de production française pour les cantines, la restauration collective. Ça, c'est pareil sur la question des prix. Comment vous faites pour que chacun ne paye pas la cantine plus chère?
Tout ça passe par des appels d'offres. Vous le savez bien, les collectivités sont soumises à des appels d'offres. Mais il y a des appels d'offres dans lesquels vous pouvez mettre des critères. Donc, effectivement, il faut faire rentrer un certain nombre de critères qui favorisent notre production française. Et puis, il faut aussi, mais c'est l'affaire des clauses, arrêter d'importer des produits qu'on produit en France ou qui sont soumis à des normes qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très facile d'importer des cerises qui n'ont aucune norme, qui ne répondent à aucune de nos normes et qui inondent notre marché. Ça, c'est du patriotisme économique aussi.
Vous disiez en début d'émission, le gouvernement veut effacer les agriculteurs. Jordan Bardella dit l'Union européenne veut tuer l'agriculture française. Moi, je vous pose une question simple. Pourquoi l'Europe voudrait tuer les agriculteurs français?
Parce que ça coûte cher pour eux, l'agriculture, parce que pour eux, la PAC coûte cher.
C'est un tiers du budget, mais
et qu'ils veulent réorienter ceci sur autre chose.
Ça ne réduira pas le budget.
Parce que les agriculteurs sont vus et perçus, et certains relaient ça, comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des gêneurs, comme des pollueurs, je l'ai dit en début de propos, et que ces gens, dont M. Canfin d'ailleurs, le relais de M. Macron au Parlement européen, mènent ce discours-là. Oui, bien entendu, qu'ils veulent effacer pas uniquement l'agriculture, ai-je dit, la ruralité dans son ensemble. L'absence de services publics dans la ruralité, la fin de nos commerces de proximité, demain, la fin peut-être d'une certaine forme d'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, amènera à cet effacement.
Merci Sébastien Chenu, vous êtes notre invité de ce grand jury ce dimanche. Dans un instant, on va continuer de parler d'agriculture et de voir si derrière cette crise agricole et puis le soutien des uns et des autres ne se cache pas non plus la question des élections européennes. A tout de suite.
Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost.
Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national et vice-président de l'Assemblée nationale, est notre invité. Derrière la crise agricole que nous avons largement évoquée dans la première partie du grand jury, y aurait-il une élection? Pauline Buisson.
Oui, Sébastien Chenu, faites-vous des agriculteurs votre nouveau cheval de Troie pour attaquer l'Europe et pour lancer la campagne des élections européennes?
En tous les cas, le 9 juin, la liste que Jordan Bardella va mener fera de l'agriculture un des éléments de la défense de notre agriculture, un des éléments centraux de notre campagne. Évidemment, nous ne faisons pas semblant. Oui, nous nous adressons à la France de la ruralité, à la France périphérique, en lui disant « vous allez mourir si d'autres choix ne sont pas faits ». Ces autres choix, ils se font au Parlement européen. Tout à l'heure, on a parlé de la loi de la restauration de la nature. Vous savez, ces titres, alors l'Union européenne a toujours aussi l'art et la manière de vous présenter les choses avec des titres très aguichants, la restauration de la nature. On se dit « c'est formidable ». Enfin, derrière, c'est la baisse de 10% des surfaces agricoles. En réalité, c'est cultiver moins. Eh bien, cette disposition européenne, elle est passée à quelques voix. Donc oui, il faut des députés du Rassemblement national pour s'opposer à tout ça. Parce que les macronistes, ils l'ont tous voté, hein, totalement sans se poser de questions.
Donc vous nous dites que l'agriculture, c'est le symbole de la technocratie de Bruxelles, c'est
non,
ça
mais l'agriculture, c'est un des fondements de la politique européenne. L'Union européenne a été créée justement parce que l'agriculture devait nourrir les Européens pour maintenir cette agriculture. Donc oui, c'est évidemment un axe majeur de la politique européenne et il faut des députés du Rassemblement national et je suis persuadé que le 9 juin, la France de la ruralité aura à cœur d'envoyer avec la liste Bardella des députés qui défendront ses intérêts.
À propos des élections européennes, il s'est passé quelque chose d'important cette semaine, à la fois pour les élections et puis pour ce qui pourrait se passer après. Marine Le Pen a remis en cause l'alliance que vous avez aujourd'hui au niveau européen avec le parti allemand AfD. Une réunion secrète révélée par la presse entre des groupuscules d'extrême droite, des néo-nazis et l'AfD, donc, pour imaginer une solution pour expulser des Allemands non assimilés, a provoqué des manifestations monstres en Allemagne. L'AfD n'est plus fréquentable ?
En tous les cas, nous sommes en profond désaccord avec un certain nombre de discours que celle-ci semble porter, en tout cas qu'une partie semble porter. Il y a aussi une partie des députés de l'AfD qui ne sont pas en accord avec ça. Mmh. Et donc, à partir du moment où nous assumons, nous avons des choix clairs et nous avons des positions claires, nous ne pouvons pas, évidemment, être partenaires de gens qui auraient des objectifs qui sont si éloignés des nôtres.
C'est une rupture avec l'AfD ou pas ? Pour bien comprendre.
Mais on va voir ce que c'est à l'AfD de nous dire ce qu'elle veut faire, parce que je pense qu'elle n'a pas acté réellement ses dispositions en matière migratoire pour l'élection européenne. Enfin, nous, on est en désaccord probable avec ce que cette partie-là propose, mais bon, il y a deux choses. Un, ce que proposent nos partenaires dans leur pays, c'est pas la même chose que ce que nous proposons. Et chaque pays, c'est pareil partout, chaque pays a des partenaires qui ne proposent pas les mêmes choses.
Regardez, les
macronistes, ils ont élu une présidente du Parlement européen qui est favorable à l'avortement. Ça ne les empêche pas de nous proposer.
Il y a des positions nationales
que nous ne partageons pas. Mais il y a aussi des limites que nous ne souhaitons pas franchir. Et donc, par conséquent, nous verrons bien. Qui est envoyé par les électeurs allemands au Parlement européen et nous verrons bien avec
parce
qui nous
formons un groupe. Pour bien faire comprendre l'enjeu, votre objectif et votre ambition, c'est d'être le premier groupe au Parlement européen pour pouvoir bien évidemment peser sur les décisions européennes. Sans l'AfD ou avec une bonne partie amputée des députés AfD, vous ne pouvez pas avoir ce groupe.
C'est pour ça qu'on verra qui les électeurs enverront en Allemagne et si ce discours-là permet à l'AfD d'envoyer du monde. Et puis on verra aussi quel est réellement le discours de l'AfD. Il n'est pas sûr que du tout que l'AfD aille au bout de ce genre de proposition qu'une partie de ses troupes a visiblement mise sur la table. En tous les cas, nous, on est en désaccord avec ça. On ne souhaite pas être partenaire de gens qui proposent la remigration, pour parler très concrètement de cette disposition. Et on verra bien ce qu'il y a dans leur programme.
Comprendre entre expulsion et remigration. La remigration, ça veut dire renvoyer notamment des gens dans des pays dont ils ne sont pas originaires. C'est ce qui est en train de se passer, ce que tente de mettre en place la Grande-Bretagne. C'est ce qui est effectivement évoqué par l'AfD, c'est-à-dire de renvoyer tous les étrangers sans papier vers le Rwanda. Et après que ce soit le Rwanda qui traite leur cas.
Oui, mais c'est
ça,
pas ce
vous
qu'on
êtes
propose.
Contre cette stratégie-là.
Nous ne proposons pas ça. D'abord, nous proposons de retrouver la maîtrise de nos frontières, ce qui déjà est la première des choses. Nous proposons d'expulser les gens dans leur pays d'origine, en renégociant des traités,
Les pays d'origine les acceptent.
Oui, d'accord, mais enfin, il y a des pays avec lesquels on peut aussi monter un peu le ton, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, l'Algérie, nous subissons les accords de 68 qui régissent nos relations avec l'Algérie. On a bien vu tout ce gouvernement aller en Algérie, se faire recevoir par Pierre, Paul ou Jacques là-bas, sans rien changer. Donc nous disons, oui, il faut remettre ces accords sur la table.
Si certains parlent de remigration aujourd'hui, c'est bien parce que cette stratégie-là d'expulsion n'a pas fonctionné ou fonctionne très mal.
Je ne suis pas sûr que cette stratégie de remigration fonctionne très bien, hein, pour tout. Au-delà du fait que ça puisse nous interpeller, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, eh bien je pense que ça ne fonctionne pas du tout non plus.
Hein. Mais les pressions économiques ou la pression sur les visas que les pays acceptent leurs ressortissants expulsés, jusque-là, celle-ci ne fonctionne pas.
Mais on ne l'a pas tenté, ça, surtout. On ne l'a pas tenté. Avec quel pays la France a-t-elle dit qu'elle allait baisser son nombre de visas durablement ? Avec quel pays la France a-t-elle dit qu'elle allait augmenter notamment ses taxes sur l'argent qui est envoyé dans les pays d'origine, qui est collecté ici et envoyé dans les pays d'origine ? Aucun. Donc, on n'a rien tenté. La réalité, c'est qu'on n'a rien tenté et que ce n'est pas cette petite loi immigration, parce qu'on va y venir, et vous voyez, je vous permets de faire une transition tout en douceur, ce n'est pas cette petite loi immigration qui changera évidemment le cours des choses.
Justement, Jim Jarassé.
Oui, le Conseil constitutionnel a retoqué plus d'un tiers de la loi immigration cette semaine. Jordan Bardella parle d'un coup de force des juges. Pourquoi dire ça alors que les sages du Conseil n'ont fait finalement qu'appliquer la Constitution ?
Non mais toute critique du Conseil constitutionnel ne peut être reçue. Enfin, je veux dire, c'est pas, on remet pas en cause l'état de droit quand
coup de
on
force,
critique.
Coup de force, c'est ce que disent
nos opposants. Oui. Enfin, je vais vous dire. Moi, je pense le triple signal qu'envoie ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. D'abord, premier signal, c'est que rien n'est faisable. Alors bon, finalement, on ne peut jamais rien faire puisque le Conseil constitutionnel vient tout bouleverser, tout annuler,
vous considérez
tout
qu'il
empêcher.
Il outrepasse ses droits, le Conseil constitutionnel. Il fait de la politique.
Alors j'y viens. Il y a une portée politique. En tous les cas, ces décisions. Parce que dans ce pays, dans cette société dans laquelle on veut tout réguler, on veut tout réguler, les contenus d'Internet, la taille des pommes de terre, on veut tout réguler sauf l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel vient nous dire vous pouvez tout réguler en France sauf l'immigration. Ça, première chose. Deuxième chose, le Conseil constitutionnel, il s'oppose à un certain nombre d'articles avec une vision extrêmement restrictive de ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. C'est-à-dire qu'en en fait, il considère qu'il y a des dispositions qui ont été introduites dans la loi en cours d'examen et qui ne concernent pas la loi telle qu'elle est. Par exemple, on nous dit le séjour irrégulier d'immigrés en France n'a rien à faire avec une loi sur l'immigration. Ça nous laisse un peu rêveurs, mais enfin, il a une vision,
il
une lecture
pas le droit d'amendement des
Il a une
des
lecture aujourd'hui restrictive. Je note que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, le dernier signal que ça envoie, c'est aux pays qui entendent ce discours du Conseil constitutionnel. La France devient donc un pays dans lequel on peut venir très librement. Rassurez-vous, les associations pro-migrants, les gens qui veulent prendre la mer ou les passeurs qui veulent inciter les gens à prendre la mer pour venir en France, ils ont bien entendu. Le Conseil constitutionnel aidera de toute façon tout ce qui permet de s'installer en France.
Est-ce que votre critique du Conseil constitutionnel va jusqu'à sa remise en cause sur son fonctionnement ou sur la façon dont sont désignés les juges ?
Alors, son fonctionnement, il a beaucoup bougé. Hein. Le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'en 58. Oui. Il y a des choses qui ont bougé. Par exemple, l'élargissement de la saisine a évolué. Les questions de constitutionnalité, les questions préalables de constitutionnalité ont été introduites. Donc, ce n'est plus exactement la même chose. Mais c'est la nomination, aujourd'hui, qui pose problème des membres du Conseil constitutionnel, qui sont tous plus ou moins des acteurs du monde politique et de l'entre-soi politique.
Vous voudriez qu'ils soient nommés par qui alors ?
Ah mais j'aimerais que ce soit des gens ou qui affichent une véritable neutralité, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas été eux-mêmes aux commandes d'un certain nombre
de
ministères, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas assumé de responsabilité politique dans notre pays. D'ailleurs, c'est étrange, sur tous les membres du Conseil constitutionnel, les 9, je crois qu'il n'y en a pas un dont on peut imaginer qui, un jour dans la vie, ait pu voter pour le Rassemblement national. On représente 42% des Français à l'élection présidentielle, mais en revanche, on n'est présent dans aucune nomination que font les pouvoirs politiques lorsqu'il s'agit de nommer des gens dits indépendants. Ça pose la question, effectivement, des nominations. C'est une question.
Est-ce qu'il faut qu'il y ait un vote au Parlement pour l'élection, par exemple, des juges constitutionnels ? Aujourd'hui, c'est les présidents de chambre qui
décident. Enfin, peut-être qu'on peut l'imaginer, je ne suis pas fermé à ça. On le fait pour les nominations de grands responsables d'agences publiques, l'ADEME, les hautes autorités diverses et variées. Il y a un passage devant le Parlement. Peut-être, pourquoi pas, mais est-ce que c'est ça qui va inciter à avoir des gens
ça va pas
plus
être
neutres des
Pour le coup, ça ne va pas être des politiques.
Voilà, je ne suis pas sûr que ça incite à avoir des gens
plus
neutres.
Alors, c'est quoi votre solution alors ?
Déjà, avoir des gens qui n'est pas assumé de responsabilité ni élective, ni gouvernementale en France. Il doit bien y en avoir. Je pense qu'il y a quand même des gens dans notre pays qui ont suffisamment de talent, de constitutionnalistes. On lit des articles très bien faits, matin, midi et soir, par des gens fort avisés, qui pourraient siéger au Conseil constitutionnel et qui ne seraient pas des militants ou qui n'auraient tout simplement pas mis en place eux-mêmes des politiques, parce que la défense de l'état de droit ne repose pas entre les mains de Laurent Fabius, pour moi. Si vous voulez, c'est pas lui qui est le garant de l'état de droit dans notre pays.
Pour en revenir sur la loi immigration, vous l'aviez donc votée. Toutes les raisons pour lesquelles vous aviez voté cette loi ont été retoquées. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Les Républicains travaillent sur un ou plusieurs textes pour réexaminer au Parlement tous les points qui ont été censurés au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous seriez prêt à les soutenir ?
Bon, d'abord, j'aurais aimé que le gouvernement et les Républicains fassent preuve d'un peu moins d'amateurisme dans le texte qu'ils ont construit, qui visiblement était assez bancal, mais ils le savaient. Un peu moins d'hypocrisie aussi, parce que quand Emmanuel Macron...
Vous avez voté pour, c'était bancal.
Non, mais nous, on l'a voté pour parce que ça envoie un signal. On l'a dit, idéologiquement, on considère que ça ouvre une porte et que ça envoie un signal. Mais quand Emmanuel Macron saisit lui-même le Conseil constitutionnel en espérant d'ailleurs même pas secrètement, en disant à ses troupes et en disant quasiment publiquement, on espère qu'ils vont dézinguer une partie du texte, une grande partie du texte, c'est totalement hypocrite. Moi j'aimerais qu'on sache d'ailleurs combien de propositions de suppression de cavalier législatif, le secrétaire général du gouvernement a-t-il fait remonter ? À quel moment le secrétaire général du gouvernement demande-t-il au Conseil constitutionnel de désinguer la loi qu'il a fait voter, qu'il a proposée à sa propre majorité ?
Finalement, c'est ça,
mais c'est les Français qui se font avoir, madame. C'est les Français qui se font avoir, parce qu'en fait, on leur fait croire pendant des semaines et des semaines qu'un texte incroyable va arriver sur l'immigration. C'était M. Darmanin. Incroyable, vous allez voir ce que vous allez voir avec ce texte. Et à la fin, le texte est totalement désossé. Il est mal construit. En revanche, il a un avantage, et nous l'avons dit, c'est que idéologiquement, il ouvre des champs et des perspectives de débat. Et il ouvre les yeux aussi, je crois, de beaucoup qui disent que, évidemment, pour changer les choses, alors, comme le dit Marine Le Pen, comme le porte le Rassemblement National, il faut faire évoluer la Constitution.
En un mot, juste, les Républicains veulent reprendre le sujet, refaire une loi avec tout ce qui a été retoqué. Ça, vous les accompagnerez ? Vous êtes...
Oui, mais enfin, moi, je n'ai pas le goût de l'effort inutile. Refaire la même chose pour arriver au même résultat, ça n'a pas de sens. Nous avons un texte proposé, présenté par Marine Le Pen aux Français pendant l'élection présidentielle. On le retravaillera peut-être parce que les choses bougent pour la prochaine élection présidentielle. Ce texte, il est lié à la nécessaire réforme de la Constitution. Nous demanderons que ce texte soit, soit porté par une réforme de la Constitution. C'est exactement ce que nous allons faire parce que c'est comme ça que ça marchera. Le reste est voué à l'échec. Nous l'avons vu, il y a des défenses, il y a des empêchements qui sont tellement forts que les choses n'aboutissent pas. Alors, il faudra le faire dans l'ordre. Il y a la possibilité de faire des référendums dans notre pays. Il y a un certain nombre d'articles qui sont possibles. Il y a la possibilité, la nécessité même de consulter les Français. C'est ce que nous allons faire avec Marine Le Pen.
On va maintenant parler un peu de l'actualité de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu, en qualité de vice-président de l'Assemblée, vous étiez favorable cette semaine à une augmentation des frais de mandat des députés, 300 euros de plus par mois. Puis vous avez changé d'avis dès le lendemain. Est-ce que vous êtes fait taper sur les doigts par Marine Le Pen, par Jordan Bardella ou par les deux ?
Alors, plusieurs choses. Je note que sur cette disposition, tous les partis politiques, enfin aucun parti politique plutôt ne s'est opposé. Vous posez la question à moi, tout comme les vice-présidents. Oui, d'accord, ouais. Mais les communistes, les écolos, les LR, enfin l'ensemble. Mais nous, nous sommes.
Vous avez changé d'avis.
Nous avons une spécificité. Nous sommes les seuls à avoir demandé le report de cette disposition. Que se passe-t-il
en fait ? Le lendemain.
Oui, bien sûr. On nous a présenté ça, on ne nous avait pas dit évidemment la veille qu'on allait devoir arbitrer sur ça, comme une mesure d'indexation des frais des députés sur l'inflation, et qui permettrait de mieux rémunérer leurs collaborateurs en particulier. Il n'y a pas un euro dans la poche des députés. Hein. Il n'y a pas un euro dans ma poche en plus. Hein. Faut que les gens... Je trouve qu'il faut dire les choses. Et tout à l'heure, je parlais d'assumer ses responsabilités.
Pour les frais de mandat.
Et c'est bien, voilà.
Donc c'était plutôt
on nous a dit,
décision alors.
Il y a une décision qui est celle d'indexer sur l'inflation les frais de mandat des députés. Décision mal perçue, mal comprise et à raison, probablement par l'opinion publique. Eh bien nous, quand nous considérons qu'on a eu une erreur d'appréciation, et on a eu cette erreur d'appréciation, eh bien on demande, parce qu'on assume les choses, eh bien que cette mesure ne soit pas appliquée. Mais est-ce que les autres le demandent ? Moi j'ai demandé moi-même à la présidente de l'Assemblée nationale de revenir sur cette mesure en considérant que les Français ne pouvaient pas la comprendre eu égard aux difficultés qu'ils traversent.
Mais justement, elle assume cette décision en disant, comme vous le disiez, ça ne va pas dans la poche des députés. Non, mais... Et c'est pour s'adapter
mais
à la hausse
des... On peut avoir ce débat sur les moyens, mais il se trouve qu'aujourd'hui, les Français ne peuvent pas entendre
donc
ce débat.
Donc c'est uniquement une question de timing.
Parce qu'ils sont confrontés à des difficultés tels qu'ils ne peuvent pas imaginer que même pour mieux rémunérer nos collaborateurs, les députés augmentent leur enveloppe de frais.
Donc on comprend que sur le fond, vous êtes quand même favorable à cette décision et que c'est juste une question de communication et de timing.
Alors, moi, je ne suis pas favorable à des augmentations de salaire des députés, d'indemnités. On ne parle pas de salaire, d'ailleurs. D'indemnités des députés. Je ne suis pas pour qu'on augmente les indemnités des députés. Je pense que les parlementaires, on nous a toujours dit un jour, on travaillera sur le statut du député, on travaillera sur le statut de l'élu local. Je pense sur le cumul des mandats. Moi, je ne suis pas favorable, par exemple, à ce qu'on revienne sur le cumul des mandats. Je pense que la loi va très bien. Je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait davantage de cumul de mandats et donc d'indemnités. Donc je pense qu'on peut parler, dans une démocratie, on peut parler du coût de la démocratie et des perspectives qu'on propose. En revanche, il y a aussi une question d'acceptabilité sociale. Les Français, aujourd'hui, en bavent trop pour imaginer qu'à l'Assemblée nationale, on rémunère mieux nos collaborateurs. Donc nous avons demandé le report. J'aimerais que les autres demandent le report, ou Mme Braun-Pivet l'assume, c'est son choix. Moi je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment.
Toujours à l'Assemblée nationale, qu'attendez-vous du discours de politique générale de Gabriel Attal ? Ça sera mardi.
pas grand-chose. La réalité, c'est que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron a déjà tout dit, a déjà tout raconté. Je ne sais pas sur quoi Gabriel Attal veut emmener la France. Visiblement, le chômage remonte, l'inflation ne recule pas, le pouvoir d'achat des Français reste très endommagé, les agriculteurs sont sur les routes, notre pays est en crise, et je ne parle même pas des crises migratoires et sécuritaires.
Ça veut dire que si une motion de censure est déposée juste après ce discours de politique générale, vous la voterez ?
On verra. Nous, on va voir ce que dit Gabriel Attal. Moi, je ne fais pas Gabriel Attal de mauvais procès. Je veux l'écouter. Je veux l'entendre. Mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions.
Est-ce que Gabriel Attal est plus difficilement attaquable ou moins saisissable pour vous ?
Non, parce qu'il va retomber dans les mêmes difficultés que... alors, il est plus sympathique humainement qu'Elisabeth Borne, mais moins sympathique qu'Elisabeth Borne, c'était dur à trouver. Donc, je pense que c'était impossible à trouver. Donc, ils ont trouvé plus sympathique et plus populaire.
Bon, il invoque aussi le respect de l'ordre
républicain. Mais ça ne fait pas une politique.
Hein. Il invoque aussi le respect de l'ordre républicain. C'est le ministre qui a interdit l'abaya dans les écoles. Vous reconnaissez quand même une rupture positive avec Elisabeth Borne ou vous lui accordez aucun crédit ?
Non. Bah, l'abaya, c'était sous Elisabeth Borne, donc c'est le même gouvernement. Oui, enfin, mais Gabriel Attal a laissé une ardoise incroyable à l'éducation nationale. Il n'a pas solutionné grand-chose. Un prof devant chaque élève, hein, c'était ça le discours. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un prof devant chaque élève ? Bon courage à Mme Oudéa, déjà empêtrée dans ses histoires, pour pouvoir aujourd'hui assumer cet engagement. Non, je pense que Gabriel Attal n'a pas été un bon ministre de l'éducation nationale. Il a pris des sujets de société qu'il a montés en mayonnaise pour s'assurer une certaine forme de popularité. Ça a marché. Moi, je suis contre l'abaya à l'école, très bien. Mais ça ne fait pas une politique éducative pour le pays. Que va-t-il faire demain sur le pouvoir d'achat des Français? Pas grand-chose, puisqu'il n'a pas de majorité. Que va-t-il faire sur la sécurité, sur l'immigration? On le voit, il est complètement verrouillé. Donc, moi, je veux bien qu'on nous fasse débattre de la fin de vie, mais la fin de vie, c'est un beau débat qui passionne les Français, mais la fin du mois, a priori, c'est avant la fin de la vie.
Et quand vous lisez Gabriel Attal, c'est l'arme anti-RN du président?
Oui, comme Gérald Darmanin était l'arme anti-RN, vous savez, on a déjà eu ça. Darmanin était l'arme anti-RN. On a eu aussi Olivier Véran dans les armes anti-RN. On ne sait pas trop où il est passé. Une fois qu'il a terminé sa tournée des villes RN, il vient de disparaître mort au feu. Donc oui, on les connaît, les armes anti-RN. En général, elles s'émoussent et elles permettent beaucoup de choses. C'est que le Rassemblement national, au moins dans les sondages, apparaissent aujourd'hui comme le parti politique préféré des Français. Marine Le Pen et Jordan Bardella, comme étant les hommes et femmes politiques préférés des Français.
Gabriel Attal, Premier ministre, invoque aussi souvent le bon sens. C'est des mots que Marine Le Pen, par exemple, utilise régulièrement. Vous dites quoi ? Qu'il marche sur votre plate-bande ? Qu'il va
non,
mais, bon
mais,
sens
c'est... Non, mais Gabriel Attal est un garçon qui sait communiquer. C'est un garçon de sa génération. On le voyait derrière son petit ballot de paille hier. Il sait faire de l'image, il sait communiquer, il sait utiliser les mots qui font plaisir à entendre. Mais derrière, on en est où pour les Français ? Au bout de 7 ans de macronisme, on en est où ? L'état du pays, sincèrement, quand M. Darmanin nous dit qu'il expulse plus, il expulse bien moins qu'il y a quelques années, bien moins qu'en 2019. Enfin, je veux dire, ces dirigeants politiques-là ont mis notre pays dans l'état que nous connaissons et aujourd'hui, ils essayent de guérir les plaies par des mots doux. Ça ne marche pas.
Et quand Emmanuel Macron dit « pour que la France reste la France », c'était lors de sa conférence de presse, ça résonne comment
Mais derrière, vous savez, c'est toujours pareil. C'est les paroles et les actes, c'est les mots d'amour et les preuves d'amour. Tout ça, ce sont des mots. Emmanuel Macron, Gabriel Attal sont des experts de la rhétorique, sont des experts des mots. Souvenons-nous ce qu'ils avaient fait avec les Gilets jaunes, les grandes réunions, les grandes consultations. Mais tout ça, ça aboutit à quoi ? Ça a servi à quoi ? Ces heures et ces heures de débat, cette consultation permanente des Français, ces gens qu'on met dans des salles et à qui on apporte une tisane pour débattre de tous les problèmes de la France. Et à la fin, il se passe quoi ? Rien.
Étiez-vous en boîte de nuit hier soir avec Jordan Bardella ?
Je suis passé saluer Jordan Bardella et les jeunes qui s'étaient rassemblés autour de lui hier soir. Je suis passé, mais pour être en forme auprès de vous ce matin, il ne fallait pas que je veille trop tard.
Parce que Jordan Bardella lance donc un mouvement, hein, les jeunes avec Bardella. Vous trouvez que c'est une bonne idée, un mouvement pour Jordan Bardella, des jeunes ?
Bien sûr, Jordan Bardella est le président du Rassemblement National. Il est notre tête de liste aux élections européennes. Il a un écho particulier chez cette jeunesse de France. Il faut pouvoir l'accueillir, la rassembler. Beaucoup de jeunes sont présents avec moi ce matin dans vos studios, qui étaient tous hier soir autour de Jordan. Eh bien, je pense que oui, nous avons vocation à rassembler la jeunesse de France.
C'est un mouvement pour les élections européennes ou pour plus tard, 2027 par exemple ?
Pour les élections européenne à minima, et puis après pour Marine Le Pen au moment des élections présidentielles.
Moi,
je pense qu'on tire tous dans le même sens. Ouais. Parce que c'est que en réalité, vous rêveriez que ça se passe mal. Rassurez-vous, ça va très bien se passer. Alors, on a une candidate à la présidentielle,
Marine
un candidat aux européennes.
Marine Le Pen avait lancé son propre mouvement aussi. Donc,
vous verrez, bien ce qu'on fait, vous verrez bien ce qu'on fait au moment des élections présidentielles. Le rendez-vous, là, c'est les européennes. Ça me permet de leur dire, le 9 juin, une mobilisation générale. Et les jeunes, avec Bardella, vont y contribuer.
Sébastien Chenu, vous êtes vice-président de l'Assemblée. Vous avez une certaine forme de visibilité médiatique. Ce n'est pas le cas de tous les députés de votre groupe du RN. Très peu, finalement, ont un sujet de prédilection précis et vont sur les plateaux télé. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que, finalement, il manque un peu une armée de réserve pour Marine Le Pen en cas
quelques
de victoire en 2027,
s'il vous plaît?
Je crois pas. On a beaucoup de députés qui se sont spécialisés dans des sujets. Ils sont pas encore sur vos plateaux, mais invitez-les. Frédéric Falcon sur le logement, Emmanuel Taché de la Pagerie sur les violences faites aux femmes. On a parlé de Grégoire de Fournas sur l'agriculture. Invitez-les. Ils ont bien des choses à dire. Vous allez les découvrir, les Français avec vous.
Merci beaucoup, Sébastien Chenu, pour ce grand jury. Excellent dimanche à vous tous. À la semaine prochaine.